IDFM Radio, 98 FM.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. C'est IDFM Radio, merci à toutes et à tous d'être au rendez-vous de cette émission « L'économie en direct ». Le bien-être, un sujet plus que jamais d'actualité. Défis et opportunités liés au bien-être en entreprise, à la cohésion d'équipe et à la gestion du stress. Aujourd'hui, mardi 22 avril 2025, mes invités apporteront des perspectives uniques sur la manière dont les entreprises peuvent prospérer tout en prenant soin de leurs collaborateurs. Pour en parler avec moi dans notre studio, Nicolas Wolf, gérant de Costume Carbone. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Créateur de vêtements personnalisés pour faire briller les entreprises, vous nous raconterez votre parcours et comment ce désir de Costume Carbone est né. À vos côtés, Pascal Varroquier, réflexologue et coach spécialisé en prévention, gestion du stress et écoute des émotions pour les particuliers, mais aussi au sein des entreprises. Bonjour Pascal.
Bonjour Jacqueline.
Ravie de vous accueillir chez IDFM Radio. Autant d'actions pour remettre l'humain au cœur de la société, et c'est ce que nous allons découvrir avec vous dans quelques instants. Et mon troisième invité est Michel Jonker, past président du MEDEF Val d'Oise, membre élu à la CCI Paris-Île-de-France et Val d'Oise, conseiller du commerce extérieur de la France, docteur en sciences de l'éducation et de la formation, PhD, auteur d'un essai « Le bien-être individuel en entreprise », disponible depuis fin janvier 2025 par Internet, à la FNAC, sur Amazon, Erol et dans plusieurs librairies de France qui sont intéressées par le sujet et l'ont commandé. Un sujet, le bien-être individuel en entreprise, dont nous voulons tout savoir. Bonjour Michel.
Bonjour Jacqueline, merci de me recevoir nouvelle fois.
Merci à vous de vous prêter à cet exercice chez IDFM Radio. Bienvenue à tous les trois sur notre antenne et merci d'être les invités en direct de l'économie en direct, une émission à retrouver en podcast sur idfm98.fr.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Nicolas Wolf, on commence avec vous.
Avec plaisir.
L'exercice. Alors, Nicolas, j'ai pu voir que vous aviez un parcours académique assez intéressant. Comment êtes-vous venu à créer Costume Carbone ?
Ça remonte en fait à assez loin, puisque à la fin de mes études, je suis parti 6 mois au Canada, à Vancouver. Et j'y ai découvert une envie d'entrepreneuriat, une envie de créer quelque chose et d'être indépendant. Je suis revenu en France après 6-7 mois au Canada avec cette idée en tête. Et puis finalement, je me suis pas senti suffisamment fort ou légitime pour le faire. Donc je l'ai pas fait. Je suis rentré chez Nike à cette époque-là. J'ai eu ce que je considère encore comme une chance de rentrer dans cette belle entreprise où j'ai passé 12 ans. J'ai un petit peu oublié ce projet de création pendant ces 12 ans parce que l'intensité du travail chez Nike étant ce qu'elle
était.
C'était avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai passé ces 12 ans. Et à la fin de ma période chez Nike, j'ai fait un troisième cycle à l'Institut français de la mode. Parce que j'avais un peu envie de sortir de l'univers du sport, et pendant ces études, donc c'était un cycle à temps partiel, pendant ces études, une des UV consistait à créer un projet d'entreprise. Et donc, Costume Carbone, en fait, c'est un projet d'école.
D'accord.
Qui s'est transformé en une vraie entreprise et
un projet concret.
Exactement. à la faveur d'un hasard de calendrier, on va dire. C'est-à-dire un plan social, une fin d'études. Et puis finalement, cette idée qui me revient, mais oui, en fait, moi j'ai envie de faire ça. Et du coup, le projet, il est là. Donc je le crée avec un associé au départ, et puis plus tard tout seul. Enfin voilà.
Mais alors, donc, vous étiez, est-ce que vous étiez couturier? Vous avez appris à coudre?
Oui. Oui. Mais ça n'a rien à voir.
Enfin,
ma mère m'a appris à coudre.
Oui.
Donc, jeune enfant, ado, étudiant, j'ai pas mal cousu. Cousu, c'est un grand mot. J'ai rapiécé, on va dire.
D'accord. Mais bon, vous saviez utiliser une machine à coudre.
Voilà, j'ai utilisé avec beaucoup de plaisir une machine à coudre. Et d'ailleurs, j'ai appris à mes enfants à utiliser une machine à coudre. Et j'en suis assez fier quand je vois ce qu'ils sont capables de faire, eux, bien mieux que moi à l'époque. Donc, je crois qu'il y avait quand même une affinité avec le textile et l'habillement. Chez Nike, j'ai beaucoup travaillé sur le textile, essentiellement, on va dire. L'IFM, l'Institut français de la mode, son nom parle pour lui-même. Et oui, il y avait vraiment une envie d'habillement au-delà de la couture
oui,
en réalité.
Bien sûr.
Ouais.
Ce séjour chez Nike et à l'IFM ont probablement aussi forgé votre esprit à travers ce projet, parce que vous aviez quand vous vouliez faire ce projet, c'était déjà dans le costume de professionnel quand vous êtes rentré du Canada.
Non, c'était totalement différent. Découvert un concept au Canada à l'époque. Alors ça remonte à 95, au siècle dernier donc.
Oui, carrément.
J'ai découvert le dépôt-vente d'articles de sport.
D'accord.
À une époque où le trocathlon, qui s'est un peu emparé de ce marché de en parallèle du Bon Coin, etc. À une époque où ça n'existait pas en France. Et à Vancouver, ça marchait vraiment très bien. Il y avait un gros dépôt-vente de sport avec des prix dégressifs dans le temps. Et j'avais trouvé ça absolument génial. Mais l'usage et la consommation de biens de sport en France étaient beaucoup plus faible.
Oui, sans commune mesure avec aujourd'hui.
Bien sûr. Et en fait, économiquement, ça tenait pas vraiment la route à l'époque.
Oui, pas encore, en tout cas.
Donc du coup, je suis rentré dans une boîte qui faisait du sport neuf et bien.
Mais ce que je voulais dire, c'est que probablement ce passage donc chez Nike et IFM vous ont, ce que je disais, forgé l'esprit sur l'histoire, enfin l'image de marque.
Oui,
puis,
tout à fait.
L'esprit d'équipe.
Absolument. Et en l'occurrence, costume carbone dans la forme que ça avait à l'IFM et au début de cette aventure, il y a une quinzaine d'années maintenant, c'était une marque d'habillement assez haut de gamme qui s'adressait aux amateurs d'automobile et de course automobile.
Ah, d'accord.
Notre projet, c'était
donc le costume carbone existait, l'enseigne existait déjà.
Non, nous l'avons créé.
Ah, vous l'avez créé.
Et cette marque, c'était une marque de chemise, de jeans, de maroquinerie qu'on vendait sur les circuits automobiles au tout début, avec des ambitions aussi grandes que devenir un Eden Park de l'automobile. C'était ça l'idée initiale. Et la réalité nous a rattrapés assez vite. Et les professionnels nous ont demandé de faire des vêtements pour eux. Et en fait, on a pivoté en l'espace de 3 ans sur un autre modèle qui nous a fait vendre en B2B de l'habillement, du coup de l'habillement professionnel, plutôt qu'en B2C de l'habillement à des particuliers.
Et alors pourquoi costume carbone?
Alors, costume carbone, en fait, c'est le résultat d'une expérience assez extraordinaire que j'ai vécue grâce à l'IFM, encore une fois. Notre professeur de brainstorming nous a permis d'organiser une matinée pour trouver un nom à cette marque de vêtements que nous étions en train de concevoir. Et le résultat de cette matinée de brainstorming, c'est qu'on a trouvé que costume, qui représente un peu un univers un peu traditionnel, et carbone qui représente quelque chose de beaucoup plus moderne dans le sport auto, créer une association qui sonnait bien.
D'accord.
Et voilà.
D'accord.
Ça a pris 4 heures.
C'est ça.
À 8 personnes.
Rien à voir avec le fameux carbone, l'empreinte carbone.
Rien à voir, et c'était vraiment l'époque des quotas carbone, etc.
Ouais.
Donc tout le monde, enfin pas mal de gens nous disaient, oui, mais c'est quand même pas terrible votre nom de marque. Et en réalité, ça a fonctionné très bien pour notre cible à l'origine. Oui. Et voilà, bon, ça continue à s'utiliser parce que c'est comme ça.
Oui, bah non, mais je trouve au contraire, moi je trouve que c'est un nom, c'est une enseigne très bien trouvée par rapport à cette empreinte carbone dont on parle beaucoup aujourd'hui, hein, donc Monsieur Jancovici doit être ravi. Alors Nicolas, justement, comment l'image de marque et l'esprit d'équipe peuvent-ils influencer la performance d'une entreprise dans le secteur textile ? Est-ce que vous sauriez nous l'expliquer ?
C'est une vaste question. Je suis pas sûr de savoir magnifiquement y répondre, mais l'esprit d'équipe. Bon, moi j'ai appris ça beaucoup chez Nike. Mmh. C'est vrai. Mmh. Ça revient à la question précédente. C'est vrai. On fait de grandes choses en équipe. Et j'ai expérimenté ça également quand on a créé ce projet de marque. Et je l'ai expérimenté aussi avec mes premiers clients, puisque ça avait beaucoup été des écuries de course, donc des équipes. Mmh. Et bien que sur mes 15 ans d'activité, j'ai beaucoup travaillé seul, je ne peux pas m'isoler de l'équipe de partenaires que j'ai créé autour de moi, partenaires qui sont des usines de fabrication de vêtements, qui sont des ateliers de marquage de textiles, qui sont des fournisseurs, qui sont des logisticiens, qui sont en fait tout ce qui constitue l'équipe qui a fait tourner ça pendant 15 ans autour de moi. Et il est clair que jamais de la vie j'aurais pu tenir sans cette énergie, en
fait.
C'est
ça, ouais, ouais. Alors aujourd'hui, il est beaucoup question de RSE. Je pense que dans la RSE, j'en suis sûre, il y a la protection des collaborateurs. Est-ce que cette mode de la RSE est un frein ou au contraire un accélérateur pour vous ?
Alors, moi, j'ai des collaborateurs depuis peu. En ce moment, j'ai une équipe de 2 alternants, donc nous sommes 3. J'ai un freelance pour le marketing digital, donc c'est une 4e personne qui constitue l'équipe rapprochée, on va dire. J'ai une graphiste aussi, Mélissa, qui est notre extraordinaire graphiste, qui nous aide sur certains dossiers, donc qui fait partie aussi de l'équipe rapprochée. Mais le sujet RSE, en fait, pour moi, c'est un moteur plus vis-à-vis des clients que vis-à-vis de l'équipe. Je vois pas la RSE comme une contrainte dans la manière dont je vais organiser l'ambiance de travail ou le travail des équipes. C'est plus quelque chose d'humain que je vais faire avec mes valeurs. Donc la RSE, je la vois plus.
Vous faites de la RSE sans le savoir.
Peut-être.
Comme Monsieur Jourdain.
J'essaye d'être assez normal en fait.
Mais alors, je pensais aussi au fait par rapport à vos clients. Est-ce que cette RSE ne vous permet pas d'avoir des commandes que vous n'auriez pas eues s'il y avait eu cette.
Alors justement, oui, c'est plus en fait vis-à-vis des clients qu'on nous allons organiser notre travail et nos sourcings en particulier et nos actions de manière à être alignés avec les exigences de nos clients qui sont eux des entreprises plus importantes que nous qui sont soumises à des pressions et à des contraintes liées à la RSE et donc de manière à mieux leur répondre nous alignons sur ces choses-là. Alors après la RSE c'est tellement large que
c'est très vaste.
À mon niveau, on en fait une partie, quoi, une petite partie.
Et la cible de vos clients, quelle est-elle ?
Alors, ma cible client l'objectif de mes clients ?
Votre cible client.
Historiquement, donc c'est des entreprises de l'univers automobile au sens large. Mmh. Donc ça a été d'abord des écuries de course, des organisateurs d'événements. Ensuite, de la distribution automobile multimarque, des groupes, je peux citer.
Oui.
Des groupes comme le groupe Rousseau, par exemple, qu'on connaît bien dans la région. Ça a été aussi des constructeurs, des équipementiers comme Valeo par exemple. C'est aller sur la logistique et les transports. Il se trouve que c'est des gens que j'ai beaucoup rencontrés sur les circuits automobiles dans les premières années.
Eh oui,
c'est des gens qui aiment beaucoup la course.
Puis ils sont complètement, ils transportent les voitures.
Exactement. Ouais. Ils ont les mêmes affinités, on va dire. Donc ça, c'est les deux univers principaux et historiques. Puis ensuite, je me suis beaucoup investi dans les réseaux locaux. Donc progressivement, en fait, les clients, tout le monde s'habille. Une partie de nos clients ont pris conscience de l'importance pour leur image de faire porter du vêtement personnalisé, voire de l'uniforme à leurs salariés. Donc après, nos clients sont un petit peu dans tous les secteurs de ce fait, quoi.
Oui. Alors aujourd'hui, la situation économique est compliquée avec cette instabilité politique. Comment affectait-elle votre entreprise? Et puis, est-ce que vous avez des stratégies pour les...
Alors oui, c'est un euphémisme, Jacqueline, de le dire. Et ça fait je remonte ça au lendemain des européennes. Moi, je l'ai ressenti vraiment dès le mois de juin dernier, cette baisse d'énergie sur le marché. Et donc oui, c'est en ce moment, c'est vraiment difficile et c'est devenu encore plus difficile depuis le début de l'année 2025. Mmh. Ça fait aucun doute. Les stratégies, c'est qu'on essaye de faire parler de nous plus, plus bruyamment et mieux, en particulier sur LinkedIn.
Oui.
On fait beaucoup d'efforts pour être visible sur ce réseau qui est, à mon sens, essentiel en termes de réseau social pour une entreprise comme la nôtre, en tout cas. Et puis, pareil, on redouble d'efforts auprès de nos clients historiques, prendre des nouvelles,
relancer.
On se rend compte que beaucoup de gens répondent pas au téléphone parce que des dossiers traînent. Il y a pas mal de dossiers qui sont dans les tuyaux et qui n'avancent pas, en fait, parce que tout le monde on a le sentiment que tout le monde a le pied sur le frein et attend.
Oui, en plus, il y a l'année prochaine, ce sont les élections municipales, donc il y a toujours un temps attentiste dans ces périodes.
Ça peut jouer, mais j'avoue que en ce qui nous concerne, je l'ai jamais vraiment senti.
Ah oui.
Sur 15 ans, bon, une année d'élection, on va dire l'année prochaine, peut-être que début 2026, il va y avoir un creux, un trou d'air un peu avant les élections, mais pas un an avant. Là, moi j'ai le sentiment que c'est la situation internationale, l'instabilité politique en France.
Entend tous les jours.
Donc ça plus ça, ça fait que voilà, ça attend.
C'est pas facile.
Non.
Et avez-vous été sollicité pour les Jeux Olympiques?
Alors, j'ai été sollicité par un client, Bouygues Bâtiments, Île-de-France, pour les citer, qui, à l'occasion de l'inauguration de cette superbe piscine qu'ils ont construite à côté du Stade de France, a invité beaucoup de ses partenaires à trois grandes soirées successives. Et donc, nous, on a participé à la fourniture d'un joli cadeau pour les clients de cette société. Et c'était une chouette opération avec une logistique un petit peu fine sur le lieu. Enfin, c'était un dossier aux petits oignons, on va dire, qui, a priori, a fait plaisir à tout le monde.
Alors moi, il y a une question que je me pose toujours par rapport aux fabricants de vêtements, c'est la problématique des invendus. Est-ce que ça vous êtes concerné par ça?
Alors, ça répond en partie à une des raisons pour laquelle nous avons pivoté vers le marché des professionnels. Au tout départ, nous étions dans un modèle de vente aux particuliers, donc création de collections, stock, vente, fin de série, renouvellement permanent pour attirer, pour générer des ventes. Et les gens qui venaient nous voir sur les circuits un an ou trois mois après la fois d'avant nous disaient « Ah ben, ça manque de nouveautés !» Et il y avait des soldes, machin. Et en fait, on se retrouve vite avec du stock.
C'est ça.
La vente aux professionnels, le stock est déporté chez nos fournisseurs. C'est-à-dire que des marques qui ne sont pas visibles
du public
stockent par million des pièces textiles qui sont disponibles en permanence et des produits qui surtout sont peu renouvelés. C'est-à-dire que les entreprises ont besoin de réassortir régulièrement pour pouvoir habiller les nouveaux collaborateurs ou renouveler des vêtements abîmés. Donc, des bons vêtements en stock peuvent durer peuvent avoir un cycle de vie de 10 ans.
Oui.
Donc le surstock n'existe pas réellement.
Oui, c'est pas...
Là où dans le retail, en fait, mm-hmm. la demande est à la nouveauté permanente.
C'est journalier presque.
Exactement. Ouais. Donc en fait, on n'a pas vraiment ce sujet dans le marché du textile professionnel.
Mm-hmm. Donc une épine de moins dans la chaussure.
Oui, oui, c'est sûr.
Nicolas, je vais avoir deux autres questions à vous poser. On fait une pause et puis je reviens vers vous très vite.
Avec plaisir.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est l'économie en direct et aujourd'hui nous parlons de bien-être. Bien-être par le vêtement professionnel. Et Michel Joncard avait une petite réflexion
dire,
à nous faire.
Ce que je voulais dire, c'est que les gens qui sont bien dans leurs habits sont en bien-être. Mm-hmm. Dans leurs habits, c'est pas uniquement n'importe quoi qui vient de l'extérieur, mais chacun se choisit ses propres habits modernes, actuels, et les gens sont bien dans leur bien-être. Et ça, c'est une bonne chose. C'est un des éléments du bien-être des personnes.
Pascal,
En même temps que la couleur, comme dit notre ami Pascal.
Voilà, Pascal, vous partagez ce sentiment.
Bien en soi, donc moi j'ai même plus loin d'un point de vue corporel, dans mon métier, quand les gens se sentent mal dans leur peau, effectivement, le fait de passer par de la réflexologie ou le coaching que je leur offre leur permet d'être bien dans leur basket. Voilà, et donc du coup, même d'un point de vue professionnel, les entreprises, si un chef d'entreprise ou un manager se sent bien, il va bien manager, les projets peuvent aller plus vite, et voilà.
Ah oui, donc, ça se ressent, bien
tout
sûr.
Est important, je suis d'accord avec mes deux confrères, c'est vrai que effectivement l'habit est important, les couleurs sont importantes, la personne, donc c'est un global qui fait que la personne, si elle se sent bien, la vie est un peu plus rose, quoi, on va
c'est
dire.
C'est ça.
Et d'ailleurs, l'expression que vous venez d'employer, être bien dans ses baskets, même si on utilise des chaussures et pas des baskets, ça veut dire que l'habit est important. Même si l'expression bien dans ses baskets, ça veut dire être bien avec soi-même. C'est une autre affaire. Mais ça veut dire que l'habit est important.
L'habit
qui fait le moine ou pas le moine.
Je rebondis sur la couleur rose quand on a... Non, enfin moi, si je me sens pas bien, je mets un vêtement rose qui donne bonne mine. Donc
voilà.
Nicolas,
c'est une bonne tactique.
Vous validez ce commentaire?
Je valide tout à fait, et c'est d'ailleurs un des éléments d'argument auprès de nos clients et prospects, c'est que la tenue bien adaptée au travail et la tenue d'équipe va être d'autant mieux adoptée et va comment dire créer un esprit d'équipe et une forme d'enthousiasme pour l'entreprise.
Oui,
exactement,
oui.
Ça fédère les collaborateurs et c'est très important.
Et d'ailleurs, le premier code, ce qu'on appelle le code de l'entreprise, savoir-être, le premier code c'est tenue et présentation. Et donc la
vrai.
Présentation et par la tenue on se présente
c'est
bien
vrai.
Et c'est important si on va avoir des clients
c'est vrai,
que
c'est
les
vrai.
Clients non seulement aiment l'entreprise mais aiment bien les gens qui viennent les voir et qui sont bien habillés en fonction de
la
de
situation
leur job, hein.
Bien
c'est évident qu'on
bien
peut pas demander à tout le monde de venir en costume cravate tant plus que si le laboratoire il doit avoir sa blouse de laboratoire. Mais il doit avoir et doit être bien et se présenter correctement. Donc la tenue est essentielle, qui est une bonne présentation.
Nicolas, professionnellement, quels sont vos besoins ?
Ah, professionnellement, je dirais qu'on a, et je suis pas le seul dans ce cas, on a vraiment besoin de stabilité. Là, faudrait que les gens reprennent un peu confiance dans l'avenir, quoi, parce que la Terre va pas s'arrêter de tourner demain. On a tous besoin d'avancer et donc voilà, faut que ça avance et que ça se pose et qu'on
puisse
retrouver
confiance.
Un peu le moral et la confiance.
C'est
un peu général, mais
en tout cas, vous, ça ne vous empêche pas d'avancer puisque je crois que vous avez une actualité à nous annoncer avec un investissement.
Alors oui, effectivement, j'ai investi dans des bureaux. Donc en début d'année, j'ai acheté mes premiers bureaux. Ça fait il y a longtemps que je cherchais un local pour investir, et donc je l'ai trouvé dans la zone industrielle de Saint-Ouen-l'Aumône, qui est ma zone de cœur, on peut dire, puisque chez Nike j'ai travaillé 12 ans là. Ensuite j'ai installé mon entreprise dans le Vert-Galant. Et j'ai trouvé acheter des bureaux dans la zone des Béthunes.
Voilà. Très bien, donc voilà, vous restez dans le périmètre.
Exactement, hein. Désormais le showroom est
avec est disponible. Donc un espace plus grand, plus vaste.
Alors un espace pas forcément plus grand que l'endroit où nous étions au préalable, mais nous étions locataires dans un endroit un peu vétuste. Qui a été, et nous étions devenus les derniers locataires du lieu, et bon, c'était un peu triste. Donc
oui.
Maintenant, nous sommes chez nous.
Bah oui,
le showroom est très accessible. Et donc, voilà.
Nicolas, si on veut vous contacter, que faut-il faire ?
Ben, faut m'appeler.
Oui.
Sur mon numéro de téléphone.
D'accord.
Ou alors regarder sur costumecarbone.com.
Voilà.
Ou venir me trouver dans la zone industrielle au 27 rue des avenue des Béthunes.
Très bien. Bah, écoutez, merci des coordonnées qui se retrouveront sur le podcast.
Merci, Jacqueline.
Merci. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre?
Oh non, c'était
non
parfait.
Bon. Merci, Nicolas. Donc, merci, dirigeant de Costume Carbone. Merci pour votre éclairage et votre expérience sur l'accompagnement des entreprises et l'importance de l'image de marque. Merci à vous.
Merci, Jacqueline.
Et si on faisait une vraie pause, on se retrouve tout de suite après.
IDFM, 98FM.
C'est l'économie en direct ce matin sur IDFM Radio. Je suis toujours en compagnie de Nicolas Wolf, gérant de Costume Carbone, Pascal Varroquier, réflexologue et coach spécialisé en prévention, gestion du stress et écoute des émotions pour les particuliers mais aussi pour les entreprises, Michel Jonker, past président du MEDEF Val d'Oise, membre élu à la CCI Île-de-France dans Val d'Oise, conseiller du commerce extérieur et auteur d'un essai « Le bien-être individuel en entreprise ». Pascal Varroquier, donc merci d'être avec nous ce matin. Peut-être aussi, je vous pose la même question qu'à Nicolas, quelques mots sur votre parcours, Pascal.
Alors moi, mon parcours, on a un point commun avec Nicolas, et je ne savais pas qu'il était là ce matin, c'est que j'ai travaillé 11 ans chez Nike.
Ah, très bien.
Voilà. Et on s'est croisés, on a dû se connaître à peine un an.
Ah bon. Donc, j'adore, une expérience. J'adore quand mes invités comme ça.
Voilà. Donc, il y a une synergie. C'était la grosse surprise ce matin. Donc, moi, j'ai travaillé pendant 27 ans dans différentes entreprises, des petites comme des grandes, dans des postes de direction comme de simple à salarié. J'ai un peu testé tout pour tout le monde. Et je suis arrivée dans le monde du bien-être dû à des gros problèmes de santé. Et j'étais en train de faire un bilan de compétences qui me disait « tourne-toi vers l'humain ».
D'accord.
Oui, mais l'humain, ouais. L'humain quoi. Comment ? Donc il y avait plusieurs métiers qui sortaient et la vie a fait en sorte que je sois obligée de m'arrêter de façon très brutale pour des gros problèmes de dos qui ont fait que je me suis retrouvée un petit peu handicapée. Et comment je suis arrivée à la réflexologie, c'est là où c'est extraordinaire, c'est qu'il y a un moment, j'ai été obligée de me faire opérer. Et bah, j'ai été chercher une réflexologue et une hypnothérapeute sans comprendre à ce moment-là que la vie me montrait mon futur métier, quoi. Donc c'est ça qui était super. Bon, maintenant que le recul, je
c'était
trouve ça génial.
C'était en quelle année ça, Pascal?
Ça fait à peu près une dizaine d'années, je dirais 10-12 ans. Ouais, elle date à peu près. J'ai été opérée, ouais, il y a 10 ans. Donc il y a 12 ans, mais j'avais déjà eu des grosses douleurs, des soucis. Et donc du coup, j'ai testé la réflexologie. D'ailleurs, le truc le plus fabuleux, c'est que le chirurgien m'a dit, mais vous avez fait quoi? Votre colonne, donc dans mon métier c'est important aujourd'hui, je partage beaucoup mes expériences, votre colonne était hyper détendue quoi.
Ah d'accord.
Qu'est-ce que vous avez fabriqué? J'ai fait de la réflexologie, de l'hypnothérapie. Ok, bon. À ce moment-là, cette époque-là, je dis oui, ça avait l'air d'être exceptionnel. Et puis la réflexologie, pourquoi? J'ai été alitée 4 mois et j'ai un chien qui est venu me proposer de le masser. Et j'ai commencé au départ à rigoler avec cette histoire de massage pour les animaux. Et je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose avec mes mains. Voilà l'histoire. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde du bien-être. Grâce à une expérience de vie, on pourrait dire, on parlait de résilience tout à l'heure entre nous. Finalement, oui, ok, j'ai été opérée, ok, j'ai des barres de titane, je suis greffée, ok. Mais c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui.
Ça ne vous empêche pas de continuer à vivre.
Absolument pas. Ouais. Et puis, suffit, c'est pas facile à dire, mais il suffit d'être à l'écoute de soi, quoi, quand on est à l'écoute de soi. Et donc, j'ai commencé à faire un peu de développement personnel pendant que j'étais alitée. Et dès que j'ai pu bouger, j'étais à la rencontre de gens du bien-être. Et j'ai revu de la réflexologie. J'ai dit, non, mais là, deux fois, quoi. On va y aller. Et c'est comme ça que je suis rentrée réflexologue. À cette époque, j'étais encore chez Nike. Et comme Nicolas, donc on n'a pas eu le même plan social, mais moi j'ai eu un licenciement économique chez Nike. Ouais. Et pour moi, c'est des tremplins. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, dans les événements de vie d'entreprise,
ça donne
un élan de c'est un moment, c'est ok, je prends l'opportunité, je reste pas sur le négatif, j'avance, on y va quoi. Et je me suis posé la question à ce moment-là parce que j'avais monté une association. Donc en 2019, j'avais créé une association suite à mon diplôme de réflexologie pour commencer à me faire connaître tout doucement, tout en gardant mon poche chez Nike, en me disant bah dans 2-3
oui,
ans tu partiras.
Pour, voilà, ouais, pour assurer les arrières.
Sauf que non, Nike avait décidé de licencier tout le monde. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc j'ai créé une association que j'ai appelée donc là par un brainstorming avec. Je pense que Nicolas t'y a peut-être fait participer parce qu'on était dans des mêmes réseaux d'entrepreneurs. J'ai fait un brainstorming avec tous les gens que je connaissais par rapport à des questions, qui j'étais, qu'est-ce que c'est le bien-être pour vous, etc. Et j'ai fait un melting pot un petit peu et donc je suis tombée sur À la rencontre de soi-même. Voilà, donc mon association s'appelait À la rencontre de soi-même. Et ensuite, donc là j'étais encore un peu chez Nike et entre-temps j'étais démarchée par une école de coaching en neurosciences et en quantique. Qu'il voulait absolument que je vienne. Je savais pas que j'allais être licenciée. Et 2 mois après, j'apprends le licenciement. Donc, je rappelle l'école et je rentre dans l'école. Et mon mémoire s'est appelé À la rencontre de moi-même.
Très bien. Ah, oui, donc un petit peu comme Nicolas, pour qui le nom Costume Carbone était la, enfin disons la création de l'entreprise, c'était à la suite aussi d'un UV, hein, c'est ce que vous nous aviez
ouais,
dit.
Ouais, ouais.
Bravo. Alors aujourd'hui, Pascal, donc je crois que vous êtes connu et reconnu hein, pour vos méthodes de réflexologie, des réflexes. Alors.
Oui, c'est
technique, réflexe conjonctif, périosté, viscéro-cutané. Donc vous avez trouvé aussi une spécialisation dans cette formation.
Alors c'est pareil, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Mais je devais pas faire cette école. Mmh. Et parce qu'un mois avant, l'école pour laquelle je vais faire le diplôme a décidé d'arrêter sa session. Donc j'ai interrogé toutes les écoles et je suis tombée sur l'école Elisabeth Breton sans savoir qu'elle avait une spécialité, dis donc. Et j'arrive au premier cours et elle dit, j'espère que vous avez tous compris quelle est la spécialité. Je suis spécialisée en prévention, gestion du stress. Et là, j'ai dit, mais je suis au bon endroit, quoi. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et dans les études, pendant les 3 premiers mois, on ne touche aucun corps. On travaille vraiment sur qu'est-ce que le stress, comment il fonctionne. Et elle est épaulée. Donc, c'est une école de réflexologie qui est très particulière puisqu'elle a adapté une partie d'ostéopathie dans ses protocoles. Il y a aussi du drainage lymphatique.
Ah oui.
Donc, du coup, c'est la seule école qui fonctionne comme ça. On ne masse pas en statique, on bouge. Il y a un certain nombre de va-et-vient qui sont effectués, mais selon une certaine lenteur pour envoyer au niveau du bien-être aux personnes. Et j'étais complètement alignée. Donc au départ, effectivement, dans ces écoles, vous suivez les protocoles, le temps que le cadre se mette en place. À ce jour, j'ai créé quelque chose d'unique il y a 3 ans, parce que j'écoute beaucoup mes clients et qu'ils aient besoin. Et des personnes me disaient, voilà, j'ai telle difficulté, tel concours à passer, tel problème de vie. Est-ce que vous auriez une solution? Ok, des fois on fait du coaching, des fois on fait de la réflexologie. Et donc j'ai créé un protocole qui mixe la réflexologie et la visualisation, non pas comme les hypnothérapeutes, etc. Mais les gens créent leur propre moment sur la difficulté qu'ils ont. Donc il y a bien sûr tout un travail qui se fait, excusez-moi. Mais en 2-3 séances, les gens sont prêts à aller vers l'événement. Le dernier exemple en date, une personne vient me voir, ça faisait 1 an qu'elle résistait, je le savais par une cliente. Elle a loupé 3 fois son concours pour être conseillère pédagogique. Elle a loupé son oral systématiquement et elle s'est décidée à venir me voir. 3 séances. Alors, il faut savoir qu'elle a vraiment loupé. Elle n'était même pas sur liste d'attente. 3 séances. Elle l'a eu. Mais en plus, elle a eu 19,70.
Ah là là, oui.
Deuxième en classement. Et les gens me disent, je ne sais pas ce que vous fabriquez, parce qu'en 2-3 séances, vous nous transformez complètement. Je réponds, non, vous faites le travail. Ouais, je ne suis qu'un outil, je vous accompagne. Et donc, du coup, c'est des séances sur mesure. C'est vraiment sur mesure, c'est-à-dire suivant ce que la personne me parle. Là, par exemple, la personne, la première séance, c'était du coaching. Parce que je me suis rendu compte dans son parler qu'elle parlait beaucoup de son passé. Et pas, elle n'était pas tournée vers le poste qu'elle convoitait. Donc, bien sûr, il ne pouvait pas lui donner le diplôme.
Ouais.
Et donc, je vais demander, au bout de 10 minutes, je lui dis, ben, vous pouvez me faire votre oral, là? Donc ça m'a permis aussi de voir en programmation neurolinguistique, en PNL, comment elle se comportait physiquement, quelle était la difficulté, et de lui faire un feedback. Donc ça, c'était super intéressant avant d'aller sur la table et commencer à toucher au niveau du corps. Donc c'est vrai que maintenant, je suis à un stade où je n'ai pas... Alors ça arrive que j'ai des gens qui viennent me voir que pour la réflexologie ou le coaching, mais encore une fois, il n'y a pas de hasard. Quand les gens viennent me voir, il y en a des fois, c'est juste pour se faire papouiller, comme ils disent, et finalement, ils se rendent compte qu'il y a un petit truc qui ne va pas.
Il y a quelque chose qui se passe.
Et je dirais que je les reconnecte à eux, donc je suis vraiment à la rencontre d'eux-mêmes, quoi, en les accompagnant. Je dis de moi que je suis une transmetteuse.
Donc, ça reprend un peu ce que disait Michel par rapport aux vêtements, hein. Être bien avec soi-même.
Voilà. Mais en fait, ce qui était intéressant, Pascal, parce que elle a démarré par la rencontre de soi-même pour aller finalement à la
rencontre de l'autre.
Ouais, c'est merveilleux.
C'est exactement ça. Et c'est vraiment quand on regarde les avis que les personnes laissent, et j'ai beaucoup de gens maintenant qui viennent. Mon médecin n'a plus le temps de me parler, ou je peux pas en parler avec mon conjoint, ma conjointe. Je vais pas bien. Je sais plus où j'en suis dans ma vie perso, ma vie pro. Et alors, c'est ce que Michel. Tout à l'heure, Michel, vous m'avez dit, vous êtes psychologue, parce que si vous avez des termes de psychologie, c'est pas la première fois qu'on me dit que j'aurais fait une bonne psychologue. Et effectivement, les gens, bon, c'est aussi des fois compliqué pour moi, parce que je vais en reprendre ce que dit Nicolas par rapport à l'année dernière. Contrairement aux gens de l'industrie, au niveau du bien-être, moi, j'ai vu un grand changement depuis juin l'année dernière, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que les gens sont en train de revenir sur leur bien-être, se rendre compte que les médecins, les pauvres, font ce qu'ils peuvent, mais ils se retrouvent avec des douleurs que personne n'arrive à traiter. Les trois quarts du temps, c'est du stress. Il ne faut pas se leurrer. Moi, je travaille aussi sur les fascias, donc il y a énormément de choses. Les gens me disent ça me picote de partout. Et du coup, tout prend son sens, mais c'est très lourd. Hein. C'est qu'à ce jour, maintenant, j'ai des gens, les trois quarts de la séance, c'est pour parler.
Avec c'est ce que j'allais dire, en fait je pense que vous devez avoir une excellente écoute, et ça c'est énorme, avec aussi peut-être l'avantage, moi je le vois comme ça, à travers le parcours que vous nous avez raconté et ces expériences qui sont venues à point, enfin vous les avez
c'est ça, si vous voulez, j'ai une authenticité, c'est-à-dire ça, que vous, je le vis, quoi,
c'est ça, et vous-même du coup vous transmettez de savoir comment aborder les événements quand ils se produisent.
Oui, non, c'est voilà, et je partage beaucoup avec les gens, j'utilise beaucoup d'images, je suis très transparente, donc l'authenticité dans mes valeurs,
oui, c'est
voilà, c'est très important pour moi, et les gens sont libres de dire ou de pas dire, et en plus je vais même plus loin, si vous voulez, c'est qu'on me dit aussi que dans mon toucher,
ah oui,
on sent cette bienveillance, et on sent que j'aime ce que je fais, que je leur apporte.
C'est ça, vous avez une, oui, vous êtes authentique.
C'est ça.
Pascal, je propose qu'on fasse une pause, et Nicolas, décidément, je vais vous demander quels sont vos besoins dans la profession. À tout de suite. Never gonna be the same. You pretend you're so unaware. All you wanna do is hide and run away. But I can't escape your being in my head when you're in my bones. Dealing with myself when I'm all alone. I've been waiting for you to come, but it's too late. You'll see. In your love. Have you ever been in love? If you had, then you'd never have come back just to tell me that you're sorry and you want me back. Oh, how could you choose leave me in my worst? Then show up at my door and finally pretend that you're here to put me first. I can't escape you being in my head when you're in my body.
craft in your love.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. C'est l'économie en direct où je reçois ce matin Nicolas Wolf, Pascal Varroquier et Michel Jonker. Pascal, on a bien compris que vous aviez de l'or dans les mains et peut-être aussi dans la parole, hein, parce que je pense que c'est les deux sont associés. Quels sont vos besoins aujourd'hui, Pascal?
Alors il y a deux besoins. Il y a mes besoins principalement pour moi. Au niveau, j'ai une très grosse assise d'un point de vue les particuliers. Mm-hmm. Donc j'aimerais pouvoir. Bon, j'ai déjà fait du RSE. On parlait des RSE tout à l'heure avec mm-hmm. Nicolas pour les journées de QVT. Donc de pouvoir intervenir encore plus en entreprise ou en association, collectivité, et avoir un partenariat avec le monde médical. Parce que c'est vrai que actuellement le métier de réflexologue. Donc ça, c'est sur les besoins du métier. On est en élaboration d'une norme AFNOR depuis 2023 pour cadrer le métier, puisque effectivement vous pouvez tomber sur des gens qui se forment en 3 semaines sur internet oui. pour être réflexologue. Oui, donc voilà, c'est compliqué de faire la part des choses, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers, pour trouver une personne qui est vraiment fiable. Donc voilà, un partenariat, je dirais, plus travailler avec les entreprises actuellement, parce que ma clientèle particulière se fait toute seule maintenant. J'ai plus de soucis. Et côté métier, oui, cette reconnaissance de voilà d'épauler au niveau AFNOR et de passer le message, que ce soit en entreprise mais à l'être humain, prenez soin de vous quoi. Prenez soin de vous, c'est essentiel, que ce soit par la réflexologie ou autre, hein, mais que c'est très important, que c'est la réflexologie, c'est une médecine entre guillemets alternative qui est complémentaire à notre monde médical. Donc autant s'épauler entre nous pour aider les gens quoi à avancer, parce qu'effectivement il y a vraiment une ambiance un peu délétère, pesante, les gens ont peur de tout et donc de les remettre à l'intérieur d'eux au niveau même émotionnel pour qu'ils se sentent bien quoi
et reconnectés. Combien dure une séance quand on vient vous voir, Pascal?
Alors, si vous êtes en réflexologie, une séance dure 1h15. Si vous êtes en coaching, elle peut durer jusqu'à 2h30, parce que je fais du coaching en extérieur. D'accord. J'emmène les gens se reconnecter dans la nature. Ah oui, j'ai la chance d'être dans la nature.
Et on peut connaître vos tarifs?
Alors mes tarifs, je privilégie les gens qui sont au chômage ou mes seniors ou les enfants qui ont un tarif qui est à 62 euros.
D'accord.
Autrement, le tarif est à 75 et une séance de coaching est à 125 euros.
Très bien. Vous avez une actualité à nous annoncer ?
Tout à fait. Donc, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Élite Vexin, qui est à Magny-en-Vexin. Et le 24 mai 2025, on va transformer le coworking de Magny-en-Vexin en maison éphémère bien-être. Là, je vous invite à venir nous rencontrer. Donc là, c'est pas un salon, hein. C'est vraiment que des ateliers, des conférences. Et en fin de journée, on va faire une table ronde sur la gestion des émotions, où différents spécialistes de différents métiers vont exprimer comment voilà, ils voient la gestion des émotions, les solutions qu'on peut apporter avec des questions-réponses avec le public.
Donc c'est le 24 mai.
Le 24 mai, tout à fait.
Très bien.
De 9h à, qu'est-ce qu'elles m'ont dit, de 10h à 19h.
10h à 19h, très bien. Bah écoutez.
Et moi aussi. Donc pour ma part, je vais faire une conférence sur apprivoiser le stress vers une vie équilibrée. Un atelier relaxation à la portée des visages et du main. Et effectivement, je vais être intervenante dans l'atelier.
Très bien. Mais écoutez, merci infiniment, Pascal. Je crois qu'on pourrait continuer longtemps à vous écouter parce que c'est très intéressant, c'est passionnant. Mais voilà, ce sera l'occasion pour vous de revenir dans l'émission.
Avec plaisir, Jacqueline.
Merci, merci infiniment. Merci pour tout le bien-être que vous apportez autour de vous. Merci à vous. Voilà, on fait une vraie pause et on se retrouve avec Michel Jonker pour parler de son ouvrage. À tout de suite.
Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de lit. Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. Et le vide est grand, les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé, j'ai bien grandi. De toi j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je fais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Et si je voulais arrêter le temps, maintenant c'est tu me tenais la main.
Bien sur IDFM Radio.
Oui, oui, c'est bien l'économie en direct sur IDFM Radio, une émission riche hein, où nous parlons de bien-être. Hein, avec à mes côtés Nicolas Wolf, gérant de Costume Carbone, Pascal Varroquier, réflexologue et coach spécialisé en prévention, gestion du stress et écoute des émotions pour les particuliers, mais aussi au sein des entreprises. Et Michel Jonker, donc docteur en sciences de l'éducation et de la formation, auteur d'un essai, Le bien-être individuel en entreprise, issu d'une thèse de doctorat, est disponible depuis fin janvier 2025 par Internet chez Fnac, Amazon, Erol et dans plusieurs librairies de Paris. Michel, merci d'être à nos côtés ce matin pour nous présenter votre ouvrage, ce que je vous laisse faire tout de suite.
Oui, merci. En fait, comme vous l'avez dit, ce livre que je propose ce matin, c'est issu de ma thèse de doctorat en sciences de l'éducation, soutenue le 30 mars 2023, sur le thème de manager malgré les contraintes le bien-être individuel en entreprise. Pourquoi un livre parce qu'une mémoire de thèse, ça représente 400 pages. Oui. C'est un peu rébarbatif et trop long pour la majorité des gens. Et c'est normal. Et donc, j'ai décidé de publier un livre grand public, pour ainsi dire, de moins de 200 pages, plus facile d'approche. Alors, pourquoi cette thèse, puisque ce livre est issu de la thèse? Parce que j'ai été pendant toute ma carrière d'ingénieur, et dès le début en tant que directeur de fabrication, et très rapidement directeur général de filiale d'un groupe français, c'était Hutchinson de Total Energy. J'étais responsable de diriger de multiples personnes de toutes cultures et de toutes origines dans plusieurs pays. Longtemps en Afrique du Sud, 14 ans, pas mal de temps en Italie, puis en France. Et j'ai toujours pensé qu'il était plus facile de réussir et d'atteindre les objectifs entrepreneuriaux avec des collaborateurs bien dans leurs emplois. Mmh. Moi, le bien-être, c'est être bien, en gros, la définition. C'est plus facile et plus agréable. Pendant mes 4 décennies de responsabilité directoriale, je mettais en place des actions, afin que cela, avoir des collaborateurs bien dans leurs emplois, soit une réalité dans les différentes entreprises que je dirigeais, mais sans avoir vraiment le temps d'analyser si ma façon d'agir était bonne ou non. Sauf de constater que mes salariés n'étaient pas trop mécontents et les résultats de croissance et de rentabilité étaient acceptables. Maintenant, je suis à la retraite depuis un certain nombre d'années, et après avoir présidé pendant près de 20 ans, comme vous avez dit, une association, le MEDEF Val-d'Oise, de centaines d'entreprises, j'ai décidé de prendre du recul pour analyser scientifiquement si les actions que je prenais étaient les bonnes, et surtout s'il était possible d'établir une méthode, un modèle, pour tenter d'assurer un bien-être individuel dans l'entreprise, quelles qu'elles soient les entreprises, en incluant le mot entreprise, évidemment, tout organisme gérant des personnes, les institutions, les associations. Et tout en assurant, évidemment, la réussite de l'organisme, malgré les nombreuses contraintes qu'elle subit. Voilà, alors, ces contraintes, c'est quoi ces contraintes?
Oui, oui.
Alors, ces contraintes, c'est, mais évidemment, c'est la concurrence. La concurrence est une contrainte.
Les objectifs,
si on tue la concurrence, on tue l'intelligence. Mmh. Mais c'est quand même une contrainte. Bon. Ensuite, il y a, l'obligation de réaliser un minimum de rentabilité.
Oui, c'est ça.
Sans profit, on meurt. Mais c'est quand même une contrainte. Et puis, il y a les cultures et des personnalités et des différents clients. Ce sont des contraintes. Il faut s'adapter aux uns et aux autres. Et puis, évidemment, les multiples et les milliers de réglementations qui sont partout. Ce sont les contraintes. Et on peut pas les court-circuiter, les contraintes, ces contraintes-là. Et puis, évidemment, ce qu'on appelle le monde responsable d'aujourd'hui. C'est-à-dire, le monde actuel, qu'on n'en parlait pas il y a 10 ans, obligeant toute entreprise à travailler pour les multiples transitions afin de minimiser le réchauffement climatique. Alors, et avec tout ça, faire en sorte que, est-ce que c'est possible d'organiser le bien-être individuel? Parce qu'un bien-être collectif, si ça apporte pas le bien-être individuel, pour moi, ça a aucune utilité. Il faut que chacun soit bien dans son travail. Alors, donc je me suis dit, on veut scientifiquement faire une thèse. Alors, comment faire une thèse? Alors, comme je suis pas mal à l'université de Cergy, pendant 20 ans j'ai été administrateur, comme je suis vice-président de l'IUT, je connais bien les professeurs, et un jour je rencontre mon professeur, et je lui dis, tiens, je voudrais faire une thèse, est-ce que c'est possible? Elle me dit, oui. Et elle m'a dit, mais il faut que votre thème soit accepté par l'école doctorale. Ah bon, j'ai dit oui, ce thème-là vous intéresse-t-il? Il me dit, oui, c'est intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une thèse? Il me dit, il faut un directeur de thèse. Ah bon? Et comment ça se trouve? Elle dit, moi, je suis directrice de thèse.
Voilà.
Ça s'appelle HDR, habilité à diriger des recherches. Ah bon? Vous voulez être ma directrice de thèse? Oui. Bon, c'est parti. Et donc, j'ai commencé à faire une thèse, et comme il se doit. Mais alors, faire une thèse, souvent, ça c'est assez original, je voyais ma directrice de thèse, et je lui disais, sur tel sujet, je pense que... Elle me dit, pourquoi vous pensez? J'ai pas le droit de penser, non. Non, à ce stade, vous n'avez pas le droit de penser. Si vous pensez, vous n'êtes pas un chercheur. Alors, faites pas de thèse.
Ah, d'accord.
Donc, vous commencez par analyser ce que les autres ont dit. Et les autres, c'est en fait des chercheurs qui ont pignon sur rue, pas n'importe qui, qui ont fait un doctorat, qui toute leur vie a été dans la recherche. Et à ce moment-là, quand vous faites cette revue de littérature, comme on dit, eh bien, à la fin, vous vous dites, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce que moi je peux apporter à la science? Parce que si vous l'apportez quelque chose qui existe déjà, aucun intérêt. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Pendant un an, j'ai analysé beaucoup de tout ce que les chercheurs ont dit. Et puis je me suis dit, qu'est-ce qui manque? Eh bien, quand j'avais beaucoup analysé, je me suis dit, mais les chercheurs, jusqu'à présent, heureusement qu'ils ont été là, ont beaucoup analysé le bien-être. D'ailleurs, c'est une analyse qui a démarré à peine au début du XXe siècle, vers 1910-1912, dans les pays anglo-saxons. Ils ont surtout analysé le pourquoi du bien-être, mais jamais le comment. Et moi, je me suis dit, bon ben, ce que je vais apporter à la science, c'est de décider du comment et d'offrir... Et alors, comment ? En fait, on s'aperçoit que dans les chercheurs, il y a beaucoup... Chacun a son idée qui est bonne, et son idée scientifique qui est bonne. Par exemple, j'en cite deux, Karasek, qui est très connu dans l'analyse du bien-être, il dit « La combinaison d'une forte demande psychologique et d'une faible attitude décisionnelle constitue une situation à risque pour la santé. » En gros, ça veut dire si on vous donne un objectif et pas les moyens, vous n'allez pas de bon. Et puis, il y en a un autre qui a dit « Ah oui, mais le bien-être vient par le contrat de réciprocité sociale. » C'est-à-dire, je te donne un job, et puis tu le fais, et moi je te paye. En conséquence, ça veut dire donner un salaire acceptable. Alors, ça veut dire que c'est quoi ? C'est l'un ou l'autre ? Eh bien, à mon avis, c'est les deux. Ah bon ? Les deux ensemble. Et puis, il y a évidemment d'autres choses, la considération, les remerciements, tout ça. Et je me suis dit, ben, c'est une chose que je vais essayer de faire, c'est de trouver combien d'actions il faut faire en concomitant, c'est-à-dire en même temps, pour faire en sorte que l'entrepreneur, le salarié soit content. Et pourquoi ça ? Parce que si vous avez une vingtaine d'actions que je propose, si vous en faites 19 et la 20e vous la faites pas, vous avez les gens en mal-être.
Michel, est-ce que c'est ce dont vous expliquez quand vous parlez de l'arbre du mal-être et du bien-être,
oui,
ce que vous êtes en train de nous dire?
Justement, l'idée, je voulais en venir à ça. Vous avez raison, parce que une fois qu'on a établi, parce que j'ai décidé de proposer entre ce que je trouvais dans mon analyse de littérature, mon expérience personnelle et puis le fait d'interroger beaucoup, j'ai interrogé beaucoup de salariés dans deux grandes entreprises, une entreprise de grande distribution et une entreprise industrielle. J'ai estimé qu'il y avait une vingtaine d'actions qui suffisaient pour en concomitance de faire en sorte que le management, en faisant ces 20 actions, arrivait à former un bien-être individuel aux uns et aux autres. Et si une de ces actions n'était pas faite, il y avait le mal-être. Et alors, je me suis dit, quel modèle ? Quel modèle ? Alors, le bien-être, c'est une conséquence de conséquences. Vous avez les contraintes qui font des managements brutal ou bienveillant. Le management, il fait ses fameuses 20 actions. Et puis, au fur et à mesure, ça crée un climat et ça crée des salariés heureux ou malheureux. Et je me suis dit, qui c'est dans la nature ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a qui fait la conséquence de la conséquence de la nature, toutes les conséquences de la plante. Et, de façon plus solide, l'arbre. Et donc, l'arbre, j'ai décidé que le modèle serait l'arbre du bien-être ou du mal-être. Les graines, les contraintes, dont j'ai parlé au début, qui font des racines, qui sont le management. Alors, vous avez du management bienveillant. On va décider ensemble les objectifs, tout va bien. Ça, ou brutal. Tu fais ce que je te dis, c'est ce qui est bon pour toi. Et puis, donc, vous avez deux arbres, potentiellement. Encore que dans la réalité, c'est pas tout mal ou tout bon. C'est un ensemble, enfin. Et puis, ce management, il va faire ses 20 actions. Et ces 20 actions, c'est quoi ? C'est la sève du tronc qui va faire en sorte que, en montant et en faisant grossir, produit un branchage qui est en fait le climat de l'entreprise, le climat de confiance ou le climat de défiance. Et puis évidemment, si vous avez un bon climat, vos salariés seront heureux ou, si vous avez défiance, malheureux. Et quand vous avez des salariés heureux, vis-à-vis du ciel, les nuages qui se passent dans le ciel, les nuages seront brillants. Et les nuages, c'est quoi ? C'est les parties prenantes. Et les parties prenantes, c'est les clients, les fournisseurs, l'actionnaire, et qui fait que si ces personnes-là ont devant eux des salariés contents, eh bien, il y aura un effet centripète qui va faire venir les entreprises et faire, je dirais, en un cercle vertueux, faire tomber des commandes, et l'entreprise se développe dans l'arbre des mal-êtres, ce sera le contraire. Il y aura un effet centrifuge et les clients ne seront pas contents.
Ils vont être absorbés. Alors Michel, moi,
c'est
je...
un peu ça, la thèse.
Oui, mais c'est passionnant. Et en vous écoutant, je vais vous faire raconter vous parler de ma vie, ma première vie, parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est une seconde vie. Et j'ai été commerciale dans mon entreprise.
Oui.
Et j'avais acquis une telle expérience que lorsque je prospectais des nouveaux clients, je savais tout de suite si le manager était sympa ou pas. Je le voyais tout de suite à l'attitude des personnes que je rencontrais. Alors, je trouve que votre livre est formidable, mais est-ce qu'il ne s'adresserait pas plutôt aux managers ?
Non, mon livre ne s'adresse pratiquement qu'aux managers.
Ah, voilà.
Vous avez
très
tout
bien.
À fait compris, Charlie.
Oui, bien sûr.
C'est vrai. Alors, évidemment, ce livre s'adresse comme mais là le modèle ludique de l'arbre s'adresse aussi aux salariés,
complètement.
Mais pour démontrer quelle entreprise fait des actions. Et alors pourquoi cet arbre et à quoi d'abord ça permet de voir que c'est conséquences, et puis ça permet d'avoir une boîte à outils, parce que j'ai développé une boîte à outils. La boîte à outils, elle est, vous prenez les 20 actions de la sève du tronc. Et ces 20 actions, vous les expliquez aux salariés, parce qu'il y a beaucoup d'actions que l'entreprise fait et les salariés ne savent pas à quoi ça sert. Par exemple, une des actions importantes, c'est la veille technologique. C'est important.
Mm-hmm.
Mais si les salariés savent que l'entreprise a fait vraiment une veille technologique, comme il y a ils s'aperçoivent que l'entreprise travaille bien. Il a confiance
dans le
management, et la confiance dans le management est une source de bien-être. Il y a 20 actions comme ça. Et alors, vous expliquez tout ça à vos salariés et vous dites à vos salariés, maintenant que vous savez ces 20 actions-là, et vous cotez et dites-nous si c'est vrai que nous faisons ça, nos managers. Et donc, vous les cotez de 1 à 5. Le 1, très, très mauvais, très rouge, et le 5, vert, très bon. Et quand vous faites vous demandez à tous les salariés de faire la somme, de répondre à ces 20 questions, à ces 20 actions, voir si elles sont faites, eh bien, vous avez un résultat que vous mettez en camembert sur le démomètre, puisque le démomètre, ça veut dire bonheur. Et si le camembert est plus rouge que vert, ça veut dire que ce que vous pensez faire, n'est pas accepté par le personnel. Il va falloir changer pour que de plus rouge à vert devienne plus vert à rouge. Et vous allez analyser action par action, lesquelles sont plus rouges que vertes. Et à ce moment-là, vous travaillez sur ces actions-là. Et puis, vous vous développez, et au fur et à mesure, vous arrivez à assurer un bien-être individuel avec des salariés qui eux-mêmes sont des fleurs de bien-être ou des fleurs de mal-être. La boîte à outils, en conclusion. Le comment et la boîte à outils.
On comprend que votre ouvrage est dense, avec une approche pragmatique pour penser le travail autrement.
Oui.
Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez un aperçu des retours que vous avez reçus depuis la publication de ce livre?
Il faut dire que le livre est paru il y a un mois.
Ah oui. Et vous avez peut-être eu déjà des réactions.
C'est un peu difficile.
C'est un peu court, oui.
Beaucoup ont été intéressés pour l'acheter. Et l'ont acheté, mais je dirais qu'il faut un peu plus de
temps pour
moi. Actuellement,
c'est le temps de le lire.
Oui. Actuellement, je fais des présentations de ce livre à pas mal de managers. Et donc, au fur et à mesure, je crois que... J'ai demandé, alors, il fallait trouver un éditeur. Et l'éditeur qui a été intéressé, parce que j'ai créé une dizaine d'éditeurs pour qu'ils éditent le livre à leurs frais. Il y en a un qui m'a dit, mais ça c'est tout à fait le sujet qui nous vaut, c'est AFNOR, dont parlait madame d'ailleurs, Pascal, AFNOR. Et AFNOR, agence française de normalisation, qui non seulement fait des normes, mais j'espère qu'il n'a pas fait une norme de mon bien-être individuel, parce que c'est aussi dans la recherche scientifique, rien n'est jamais fixé.
Oui.
Et toute entreprise a une culture différente. Et les 20 actions que je propose peuvent être aussi discutées avec les salariés pour justement faire un travail commun. Et donc, à Venor, depuis 6 mois, je travaille avec eux pour faire ce livre. Et donc, je n'ai pas, pour répondre à votre question,
je
n'ai pas,
assez
après
de
un
retour.
Mois et demi, c'est difficile de dire combien de livres ont été vendus, mais je le saurai. Elle m'a dit, mon éditrice m'a dit, dans 6 mois, on vous fera la somme de tout ce qui se passe. D'ailleurs, il y a une critique, enfin, il y a une critique positive, je dirais, dans la revue Capital du mois de mars de cette année, qui a quelqu'un a lu mon livre et en fait une critique positive et gentille.
Une belle critique. Est-ce que le principal obstacle à la mise en place d'une culture de bien-être en entreprise n'est pas précisément le manager? Parce que vous avez des managers qui pourront lire votre livre, mais qui changeront pas leur attitude.
Non, oui, mais je veux dire, ils changeront peut-être pas leur attitude, mais qui regardent l'arbre du bien-être, les modèles arbre du bien-être et arbre du mal-être, ils se poseront des questions. Quelles sont les 20 actions de l'arbre du mal-être? Ce sont les antinomes de l'arbre du bien-être, au contraire. En plus, j'ai ajouté évidemment le harcèlement moral qui est très commun à l'heure actuelle. C'est vrai que les managers ou les gens en général ne changent pas de personnalité. Seulement, quand vous ouvrez les yeux, quand ils s'aperçoivent que leur personnel est un mal-être, parce que ça se passe facilement, ça se voit facilement. Eh bien, comme c'est des managers dont des gens intelligents, on est tous intelligents quand on manage quelque chose, eh bien, ils se rendent compte que, malgré leur personnalité, il faut qu'ils changent. Et donc, mon livre est aussi pour... dans le livre, il y a « Qu'est-ce qu'un bon manager ?» Tout ce qui est écrit dans mon livre, attention, c'est pas moi qui pense.
Oui, je comprends.
Ma directrice de thèse m'a dit, ne pensez pas, faites penser les autres. Et l'idée, c'est que tout ce que j'ai écrit, ce que j'ai pensé après la revue littérature, c'est d'aller sur le terrain et demander à une trentaine donc de personnes, de salariés de tous les niveaux dans les deux entreprises, comme je disais, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et pour vous, qu'est-ce que le bien-être? Et pour vous, qu'est-ce que le mal? Et j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs de la part de ces personnels, sachant que même moi-même, dans mes 40 années d'expérience, j'ai jamais interrogé de façon si
directe.
Je dirais pendant une heure chaque salarié. Et en interview semi-directe. Et ça, c'est la base scientifique, je dirais, de mon livre.
De votre livre.
Ce qu'ont dit les chercheurs, ce que je propose, qui s'appelle la problématique, c'est pas un problème, mais en fait c'est une hypothèse.
Oui.
Et ce que les salariés eux-mêmes disent pour en faire quelque chose de reconnu scientifiquement.
Je voudrais poser la question à Nicolas et puis Pascal. Est-ce que ce livre pourrait vous intéresser dans votre approche de management?
Oui. Absolument, oui, c'est tout à fait. C'est une préoccupation de faire
quotidienne,
en sorte que les deux salariés qui sont à presque temps complet avec moi se plaisent et restent. Enfin, c'est essentiel. Donc moi je fais ça de manière empirique, comme on en parlait tout à l'heure, mais oui, ça m'intéresse carrément.
Et d'ailleurs, la base de ce que j'ai découvert, si on veut, dans ma thèse, c'est la concomitance.
Oui, oui.
Et la concomitance est importante. Il faut pas qu'il y ait 100 actions, ça sert à rien, mais 20 actions qui permettent de se regrouper. Si de ces 20 actions, par exemple, vous en faites 19, et puis la 20e, par exemple, vous êtes bien avec tout, mais vous n'accordez pas le droit à l'erreur au personnel, eh ben, vous avez beau faire les 19 actions bien, mais le personnel est en mal-être. Ben voilà. Si vous faites 19 actions, puis une action, vous donnez pas les moyens nécessaires pour les gens pour atteindre leur objectif, ils sont en mal-être. Donc, les 19 actions que vous faites à l'extérieur, que vous avez fait, servent à rien. Et donc, c'est d'en faire 20.
C'est vraiment l'ensemble.
En concomitance, en même temps.
C'est l'arbre des racines jusqu'à la canopée.
C'est l'arbre du mal-être et l'arbre du bien-être. Mais c'est très important. Et donc, le manager doit s'assurer qu'il fait bien ses 20 actions. Pour s'assurer, il demande aux salariés, dites-nous ce que vous en pensez, et on va s'analyser et on va améliorer les choses.
Et vous, Pascal, est-ce que vous pensez que ce livre pourrait vous apporter un enrichissement par rapport à vos méthodes de coaching?
Tout au fait. Moi, je suis toujours friande quand j'ai des confrères qui apportent des nouveautés, parce qu'il y a toujours à apprendre des autres. Surtout que Michel est allé sur le terrain. Donc moi, j'ai des gens qui me parlent, mais en plus, il est encore allé sur un autre niveau dans d'autres entreprises. Et effectivement, récupérer des témoignages et des manières de travailler autrement pour apporter, toute personne est différente. Donc effectivement, oui, ça m'intéresserait bien aussi.
Et alors, aller sur le terrain, comme disait Pascal, est important parce qu'en fait, quand vous faites une analyse, enfin, vous parlez avec quelqu'un pendant une heure. Au début, ils vous disent « Ah, tout va bien, merveilleux !» Puis à force de parler,
ah oui, absolument.
À la fin, la personne pleure parce qu'elle est en mal-être.
Ouais, ouais,
alors qu'au
vrai,
début, elle
vrai,
se disait en bien-être.
Ouais, c'est donc, ce que je disais quand ils viennent à mon cabinet. C'est-à-dire que des gens qui viennent juste pour se masser et pour me dire « Je viens juste pour un massage » et finalement se rendre compte qu'ils ont un mal-être quelque part qu'ils ne s'avouaient pas. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord, Michel.
Michel, j'ai le sentiment que cette thèse va apporter vraiment un plus à beaucoup de managers. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est vrai que vous mettez le doigt sur certaines pratiques dont ces managers n'ont peut-être même pas conscience, hein, et ça va leur permettre de réfléchir à leur propre management.
Et donc, alors la thèse elle-même, le 400 pages, elle peut se retrouver sur Internet.
Oui.
Vous savez, toutes les thèses sont mises dans la plateforme HAL, H-A-L. Donc vous mettez le bien-être individuel à l'entreprise, H-A-L.
Il ne faut pas dire ça, et sinon on ne va pas lire votre livre.
Oui, et après, non, mais je veux dire, si vous voulez aller dans le détail après.
Ah, d'accord.
Et mais sinon, vous achetez le livre, et puis si vous satisfaisez avec, eh bien, c'est suffisant. À mon avis, la boîte à outils, elle est assez simple et compréhensible pour qu'elle soit applicable.
Il vous a fallu combien de temps pour la rédaction ?
De quoi ?
Du livre.
Non, alors je dirais qu'il a fallu 3 ans pour la thèse.
Oui, oui.
Et puis ensuite, le livre, une petite année.
Oui, d'accord.
En travaillant, et puis 6 mois de plus pour travailler avec AFNOR pour le mettre en place. Parce que les choses ne sont pas simples. En plus, vous signez un contrat de 20 pages avec AFNOR ou avec l'éditeur, tout éditeur, qui vous dit tout le livre nous appartient. Donc, et c'est normal. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il l'édite à leurs frais. Et parce qu'ils étaient intéressés et parce que ça peut devenir quelque chose de
oui,
pas normatif, j'exagère, mais
non, mais ça peut devenir un livre de référence.
Oui, hein, voilà, absolument. Une référence.
Oui, oui.
Une référence,
oui.
C'est ce que dit d'ailleurs l'article sur le Capital, qu'il voit le livre comme une référence dans ce domaine.
En fait, en conclusion, il est clair hein, que le bien-être des collaborateurs est essentiel hein, déjà pour la réussite d'une entreprise et que ce soit par l'image de marque, la gestion du stress ou la mise en place d'une culture favorisant.
Voilà, ce n'est pas un livre de développement personnel.
Non,
pas du tout. C'est un livre qui n'est pas non plus à la recherche du bien-être.
Mm-hmm.
C'est un livre qui permet aux managers, comme vous dites, aux managers de faire des actions qui permettent aux personnes d'être bien à leur emploi.
C'est ça.
De façon tout simple. Voilà, donc je ne développe pas le bonheur, le plaisir, la joie, qui sont des choses très importantes, mais simplement je me limite dans ce bien-être où on se sent bien dans son emploi, donc bien dans sa vie.
Écoutez, moi je suis enchantée parce que je trouve que le fil rouge a bien fonctionné hein, dans l'émission entre vous trois. Je propose qu'on fasse une dernière pause et puis on se retrouve pour quelques mots de conclusion. À tout de suite.
Capital, se faire une injection létale.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
C'est la fin de l'économie en direct où nous avons appris beaucoup de choses sur ce bien-être sous toutes ses formes. Et avant de nous quitter, je redonne la parole à mes invités, donc Nicolas Wolf, Pascal Varroquier et Michel Jonker, pour un mot de conclusion. Donc Nicolas, je commence avec vous. Un mot de conclusion avant de nous quitter.
Oui, bah merci. Merci de l'invitation, Jacqueline. C'est un plaisir de venir s'exprimer ici. Ça m'a fait très plaisir de recroiser Pascal, que je n'avais pas vu depuis longtemps, de faire la connaissance de Michel, qui est passionnant et que j'ai écouté avec beaucoup de plaisir. Donc merci.
Je vous en prie.
Merci à tous. Merci. Tant que j'ai la parole, j'en profite pour remercier les gens qui sont venus à notre journée porte ouverte.
Ah oui.
Le 10 avril.
Je vous en prie.
Je les ai déjà remerciés individuellement, mais voilà, c'est l'occasion de le faire collectivement.
Des portes ouvertes que vous faites chaque année?
Que nous faisons chaque année. Alors là, c'est avec le déménagement, ça a été un peu chaotique, c'est sur l'année passée. Mais au moins une fois par an.
Très bien. Bon, bah écoutez, belle continuation dans votre développement,
merci.
Nicolas.
Merci beaucoup.
Pascal, un mot de conclusion.
Écoutez, Jacqueline, merci à vous et toute l'équipe pour m'avoir invitée dans cette émission. Effectivement, très enchantée d'avoir revu Nicolas. C'était une super surprise ce matin. Ah oui. Et découvrir Michel qui peut m'apporter encore de nouvelles perspectives. Je vous invite à venir me voir. Donc, je suis à deux places des fêtes au Perchet, dans un joli petit village du Vexin qui, il y a que du bien-être là-bas. Donc, ça va vraiment avec ce que j'essaye d'apporter aux personnes. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. C'est surtout que le gouvernement a pointé du doigt une grosse cause cette année qui est la santé mentale. On pourra en parler longtemps, mais prenez vraiment soin de vous, que ça soit physiquement ou mentalement. Voilà, c'est le moment de la fin.
Il faudrait peut-être aussi que le gouvernement donne des nouvelles plus sympas pour que la santé mentale aille mieux. Bon, mais ça, c'est une parenthèse. Michel, oui, Jonker, un mot de conclusion.
Voilà, ma conclusion d'abord, c'est ça rebondit un peu sur Pascal. Prenez soin de vous. Et moi, je dis au manager, prenez soin de vos salariés. Et c'est important. Et Nicolas, on prend soin des gens en mettant en bonne tenue. Et je crois que un peu la conclusion, c'est que de plus en plus, ce bien-être va se développer parce qu'on parle de développement durable. Et c'est pas ça tellement, c'est la façon anglaise de parler qui est plus importante. Sustainable growth, la croissance soutenable.
Ah oui.
Il faut que cette croissance, ce développement durable, puisse permettre aux gens d'être eux-mêmes heureux dans ce nouveau monde. Donc que ce soit soutenable et pas uniquement des actions pour améliorer la Terre. La Terre, elle ira toujours bien. Et ce qu'il faut surtout, c'est que les actions que nous faisons permettent à chaque salarié, à chacun, de pouvoir vivre mieux et d'être plus heureux. Et donc, d'être bien, non seulement dans son travail, mais bien dans son environnement. Et donc, ce livre est aussi pour le bien-être futur des personnes.
Merci infiniment. On aura bien compris que chaque aspect joue un rôle crucial. Merci Michel d'être venu parler de votre livre et puis vous nous tiendrez au courant pour nous parler de son succès dans le public.
Merci
infiniment d'avoir été mes invités. Belle poursuite de vos activités respectives. Merci à tous nos auditrices, auditeurs de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et retrouvez son intégralité en replay sur le site de la radio idfm98.fr. À vendredi pour un nouveau rendez-vous, belle journée et belle semaine.
IDFM Radio, le média valdoisien. Vous cherchez à améliorer votre bien-être et à explorer de nouvelles dimensions de vous-même ? Virginie Voraz, thérapeute bien-être et psychopraticienne, est spécialisée dans l'hypnose, le rêve éveillé libre et les soins énergétiques. Virginie propose des psychothérapies personnalisées pour vous aider à surmonter vos défis émotionnels et mentaux. Que vous souhaitiez une thérapie individuelle ou un accompagnement en développement personnel et spirituel avec des techniques innovantes, Virginie est là pour vous guider. Plus d'informations sur virginie-voraz.fr ou contactez-la au 06 20 60 29 35. Le cabinet est situé 19 Terre, avenue du Général de Gaulle, à Soisy-sous-Montmorency. Bonjour à tous, c'est Laetitia et Myriam sur IDFM Radio. On vous donne rendez-vous pour l'émission Femmes en Lumière, tous les mardis à 18h.
Une émission dédiée aux femmes inspirantes et à leur parcours, à retrouver tous les mardis donc de 18h à 18h30. L'occasion de mettre sous les projecteurs les femmes de notre région et d'ailleurs.
À très vite sur IDFM Radio.
Vous êtes commerçant, artisan ou association et souhaitez diffuser des spots publicitaires sur notre antenne ? Contactez-nous au 01 34 12 12 22 ou par mail à contact@idfmradio.fr.
Bonjour, retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec toute la culture que j'aime.
Toute la culture que j'aime, c'est votre rendez-vous avec Marie-Laure et Agnès en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur,
théâtre, littérature, musique, sorties.
Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.
Tu veux taper des barres ? Apprécier de nouveaux sons et découvrir des profils inspirants. Viens. L'équipe de Tous Ensemble t'invite à écouter Focus. Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM. Focus, des histoires uniques. Portées par le rythme de la musique. Ça se passe sur IDFM Radio 98 FM.
Depuis 1994, vous pouvez entendre sur IDFM Radio l'émission Country and Souvenirs avec Patrick Mullis. Alors n'hésitez pas, restez branchés le dimanche soir de 19h à 21h pour 2 heures de country music et chaque semaine, vous pouvez gagner un album en envoyant un message à countryidfm@gmail.com. Bonne semaine à tous et bonne écoute surtout. À bientôt.